France Inter, le 18-20.
Au compte-gouttes, au cas par cas, les orphelins d'abord, après rien n'est sûr ni réellement arrêté. Quand il est question des enfants de djihadistes toujours dans des camps, avec leur mère, les autorités ne marchent pas sur des œufs, elles sont encore plus prudentes que ça. Elles ont probablement lu les sondages, ils sont lapidaires et sans appel, 2/3 des Français ne veulent pas voir revenir ces enfants dont certains sont nés là-bas, dont les parents ont fait le choix du djihad. Et c'est parce que le sujet est brûlant que les 5 orphelins rentrés vendredi par exemple sont rentrés sans publicité et dans le même temps, les avocats notamment essaient de convaincre qu'il faut rapatrier d'urgence ces enfants et aussi leur mère. Les conditions de vie dans les camps sont épouvantables, la faim, le froid. Vous avez entendu Marie Dosé ce matin sur France Inter, elle est là ce soir avec nous après une pétition avec Maître Leclerc, elle a déposé plainte devant les Nations Unies. Alors puisque le sujet est là, puisqu'il reviendra, puisque de toute façon il faudra bien tout mettre sur la table, alors allons-y. Qu'est-ce qui vous fait peur? Que voulez-vous savoir des prises en charge? Est-ce que les familles en France reprennent réellement ces enfants? Et dans quelles conditions? Quelles sont les enquêtes? Quel type d'enquête des services sociaux? Et pendant combien de temps? Le mieux c'est de tout mettre sur la table. Allons-y et soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Esse. Le téléphone sonne.
Claire, c'est vous qui commencez. Bonsoir oui. À vous et soyez la bienvenue.
Bonsoir. Merci beaucoup. Alors, puisque vous invitez à mettre tout sur la table, j'en profite. Quel que soit par ailleurs mon point de vue personnel qui ne présente pas d'intérêt, je voulais indiquer que le droit français a prévu la possibilité pour les grands-parents d'accueillir et de visiter leurs enfants dans le cas de litiges familiaux, notamment à la faveur des divorces ou de conflits intrafamiliaux. Et donc, je ne vois pas comment on pourrait justifier est fondée en droit ici, de dire qu'on interdit l'accueil de ses enfants par leurs grands-parents. Ça me semble impossible. Et si on s'aventurait à le faire, forcément, ça provoquerait des conflits juridiques générant des droits indemnités que l'ensemble des Français paieraient. Aussi bien dans ce domaine que dans d'autres, on gagnerait à une plus grande cohérence de conduite tant personnelle que collective. À cet égard, je souligne qu'il y a des disparités de prise en charge dans les départements par rapport à l'aide sociale à l'enfance, que par ailleurs, on ne sait pas non plus justifier. Mmh. Donc tout ça constitue un tout qui pose question à la collectivité nationale.
Merci beaucoup Claire pour votre question, pour cette entrée en matière surtout qui permettra d'entamer le débat entre nous et pour en discuter jusqu'à 20h. Marie Dosé est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate d'une vingtaine de familles aussi, d'enfants de djihadistes. La tribune, la pétition, la plainte aussi déposée dont on parlait ce matin, c'est vous entre autres avec Maître Leclerc. Bonsoir Daphné Bogot.
Bonsoir.
Et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes chef du service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis. Vous allez pouvoir répondre d'ailleurs à une partie des questions qui viennent d'être posées à l'instant par Claire. Et Sophie Parmentier, là également. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Journaliste au service enquête police-justice à France Inter. D'abord, d'un point de vue de droit, Marie Dosé, sur ce que vient de dire Claire, est-ce qu'on peut mettre sur le même plan ce qu'elle dit sur les grands-parents qui parfois ont effectivement leurs enfants quand il y a un conflit majeur entre les parents? Est-ce qu'on est sous le même coup de la loi, sous la même chose? Est-ce qu'on parle réellement de la même chose?
Alors, c'est un petit peu compliqué parce que c'est vrai que devant le juge aux affaires familiales, les grands-parents peuvent demander à bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement lorsque, par exemple, il y a une coupure entre eux et leurs petits-enfants. Cela existe. Mais c'est quand même beaucoup plus simple juridiquement lorsque tout le monde est sur le territoire français. La difficulté, c'est qu'en Syrie, il n'y a plus de représentation de l'État français. Il n'y a plus d'autorité consulaire. Cependant, la France a signé 2 conventions internationales. La Convention des droits de l'enfant et la Convention contre la torture. Et en ne rapatriant pas ces enfants, elle les expose à des traitements inhumains ou dégradants, elle les expose à un risque de mort et elle contrevient donc aux dispositions de ces 2 conventions dont elle est signataire. Donc juridiquement, il y a des moyens d'inciter l'État français à prendre ses responsabilités. Par contre, je ne peux pas, moi, avocat, aller devant un tribunal administratif pour mettre en jeu la responsabilité de l'État. Pourquoi ? Parce que rapatrier ou ne pas rapatrier, c'est un acte de gouvernement. Ça veut dire que c'est un acte diplomatique et politique. Et là est toute la difficulté. C'est pour ça que nous sommes allés directement devant le Comité international des droits de l'enfant et le Comité international contre la torture.
Pour ce qui est des conditions de vie, vous parlez de torture, vous parlez de risque de mort. Est-ce que tout ça est parfaitement bien documenté? Documenté par des organisations indépendantes? Est-ce que vous pouvez, sans vous tromper, arriver devant une juridiction en disant « voici les conditions dans lesquelles ces enfants vivent, voici comment je le prouve ».
Ça n'est pas contesté. Au camp Al-Hol, on est passé en moins de 3 mois de 10 000 à 44 000 détenus. Donc vous imaginez ce que ça veut dire. On sait, via la Croix-Rouge, via des ONG qui sont là-bas, que près de 30 enfants sont morts en 2 mois du froid syrien.
C'est la question que j'allais vous poser. Vous le disiez ce matin déjà sur l'antenne d'Inter, il y a déjà eu des morts.
Bien sûr. Mais il y a déjà eu des morts, il y a 3 enfants, il y a 10 jours qui sont brûlés vifs dans une tente parce que la petite bouteille de gaz qui chauffe la tente a explosé. Il y a effectivement des enfants qui meurent de froid. Il y a un nouveau-né, il n'y a pas très longtemps, qui est mort d'une pneumopathie. La liste s'allonge, mais c'est tout à fait normal. Les latrines sont devenues inaccessibles. Tous les enfants ont presque souffle de dysenterie. Donc on sait très bien jusqu'où ça va. Ça va venir avec les épidémies de choléra et de tuberculose. C'est acté, on le sait.
Daphné Bogo, deux choses par rapport à, pour finir le tour de table et pour répondre à ce que disait Claire. D'abord que les choses soient très claires, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre d'enfants, d'orphelins qui ont été, qui avaient des grands-parents sur place. Que les choses soient très claires, c'est entre vos mains d'abord qu'arrivent ces enfants, quoi qu'il arrive. Est-ce que vous nous confirmez ça?
Alors oui, ces enfants, ils sont systématiquement confiés au service de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Ils sont confiés par un juge des enfants. Donc, ils nous sont confiés pour qu'on les héberge. Et pour les enfants, en tout cas, que nous, on a accueillis en Seine-Saint-Denis, au bout de quelques semaines, donc c'est, il y a une nouvelle audience devant le juge des enfants, où là, en règle générale, il y a des droits de visite qui sont ouverts à la famille élargie, ce qu'on appelle nous la famille élargie, les grands-parents, les oncles, les tantes, pour peu qu'ils se soient manifestés. Mais c'est un juge qui prend la décision. Nous, on exécute la décision d'un juge des enfants.
Ça veut dire enquête sociale pendant que les enfants sont pris en charge par vous. Il y a une enquête sociale auprès des familles. Comment ça se passe? Combien de temps ça dure? Ou est-ce que ce combien de temps est aussi fonction des familles?
Alors, le combien de temps et fonction des familles, mais en règle générale, nous, les retours qu'on a eus depuis fin 2016, sur les 46 enfants qui sont rentrés, on en a 10 qui sont ressortis. Certains ont été rendus à leurs parents qui n'étaient pas partis en Syrie, par exemple. On a des enfants qui sont retournés dans leur famille élargie, grands-parents, oncles, tantes. Et la période pendant laquelle les enfants nous sont confiés, c'est une période où on fait des mesures d'évaluation sociale, à la fois dans qui concerne l'enfant, qui concerne sa famille proche et sa famille élargie, pour vérifier que les conditions sont bien réunies pour les droits de visite et puis après pour un éventuel retour en famille.
Dans la question de Claire, il y avait une question de disparité en fonction des départements. Alors vous, c'est le 93, je ne vais pas vous demander de parler pour tous vos voisins, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut craindre, peut-être vous, Marie Dosé, que la prise en charge soit très différente en fonction des départements? Est-ce que tous les départements sont également équipés, en fait, sont aussi bien équipés?
Moi, je pense que tous les départements sont tout à fait à même d'accueillir, de prendre en charge et puis de prendre soin de ses enfants. Enfin, il n'y a pas de difficulté de moyens, là, c'est pas vrai. En tout cas, sur ce problème précis, ça ne se pose pas. On n'est pas en train de parler de 600, 700 ou 800 enfants qui viendraient dans un appartement et qui, effectivement, surchargeraient probablement le travail de l'aide sociale à l'enfance. C'est pas du tout le cas, là.
Alors, justement, puisqu'on parle de chiffres, avant de retourner au standard, Sophie Parmentier, ça c'est pour vous, effectivement, parce qu'on entend qu'il y a déjà, évidemment, et ça on le sait, vous nous en avez parlé sur l'antenne d'Inter, des enfants qui sont revenus. Est-ce qu'on sait exactement combien il y en a qui sont désormais pris en charge? Et puis, le nombre de combien il en reste, au final, quel est-il?
Alors, il y a un chiffre qui circule depuis maintenant environ 2 ans. On parle de 500 enfants qui sont en Syrie
et en Irak.
Toute nationalité
comprise là-dessus.
Non, 500 enfants français qui sont partis très petits avec leurs parents ou qui sont nés là-bas. C'est un chiffre qui est à peu près constant depuis environ 2 ans. Et évidemment, là, avec la chute de Baghouz, on ne sait pas aujourd'hui finalement combien d'enfants restent encore avec leurs parents dans ce dernier réduit, combien sont morts. Ce qu'on sait, c'est que pour les enfants qui sont dans les camps du nord-est du Kurdistan syrien, le camp d'Alol et le camp de Roj, il y a plusieurs dizaines d'enfants. C'est très difficile, en fait, d'avoir des chiffres précis. Les ONG le disent, puisqu'elles ont du mal à comptabiliser toutes les arrivées chaque jour, parce qu'il y a justement beaucoup d'arrivées. En ce qui concerne les enfants qui sont rentrés en France et qui sont pris en charge justement par l'aide sociale à l'enfance. Il y a environ 90 enfants qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Mais je voudrais apporter des précisions par rapport aussi à la question de Claire. C'est-à-dire que les choses ont évolué. On parle là des 5 orphelins qui sont rentrés comme si c'était les premiers retours. En effet, c'est quasiment les premiers retours sans parents, donc premiers retours organisés par l'État français. Mais parmi les premiers retours qui ont commencé en 2013-2014, eh bien la doctrine de la France au tout départ, c'était que justement les enfants n'étaient pas forcément séparés des mères, les mères n'étaient pas forcément judiciarisées, et il y a des grands-parents qui étaient là à l'aéroport et qui pouvaient recevoir leurs enfants. Les choses ont changé en septembre 2016.
Ils pouvaient même repartir avec leurs enfants pendant que les mères étaient judiciarisées ou pas ? C'était ça l'idée ?
Les mères n'étaient pas forcément judiciarisées. Okay. En tout cas, il n'y avait pas forcément de prise en charge immédiate par l'aide sociale à l'enfance et donc de séparation. On ne considérait pas qu'immédiatement, il fallait qu'un juge des enfants place les enfants entre les mains de l'aide sociale à l'enfance. Et puis, les choses ont évolué parce qu'en septembre 2016, il y a eu ce projet d'attentat contre Notre-Dame avec des femmes qui étaient impliquées dans ce projet d'attentat. Et donc là, il y a eu un retournement du gouvernement. Les femmes ont été considérées comme suspectes, comme dangereuses. Les choses ont changé au regard de l'opinion publique. Et depuis ce moment-là, en effet, de façon quasi systématique, quand les femmes rentrent de Syrie, eh bien, elles sont interrogées par la DGSI, très souvent incarcérées, et tous les enfants désormais sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et il y a une circulaire, en fait il y a Édouard Philippe qui a mis en place un protocole l'année dernière, et c'est ce protocole qui est suivi, avec donc le suivi par l'aide sociale à l'enfance et un long suivi psychologique, tout ça sur la surveillance de juges des enfants. Mais juste, les grands-parents très souvent ont l'impression d'être culpabilisés et disent « mais nous on pourrait prendre en charge nos enfants », mais les juges des enfants en fait estiment qu'il y a besoin d'un sas en fait pour ces enfants, qu'il faut savoir comment ils vont, et je pense que Daphné Bogo nous expliqueront comment vont ces enfants, et qu'on peut pas tout de suite les rendre à leurs grands-parents, parce que d'abord très souvent il faut dire aussi que les grands-parents ne connaissent pas leurs enfants qui sont nés en Syrie.
Alors on va retourner au standard avant de pouvoir répondre à ces questions. En effet, question concrète de votre part, Philippe, bonsoir.
Oui, bonsoir. Je ne veux pas remettre en cause l'accueil des enfants par leurs grands-parents. Moi, ce qui m'interroge, c'est que j'ai entendu aussi parler de l'accueil des autres enfants. Et comment peut-on séparer des enfants de leur mère ? Et puis, l'autre aspect aussi qui m'interroge, c'est il y a que des enfants français ? Les autres enfants, j'imagine, existent. Ils sont aussi dans cette situation qui doit être terrible pour eux. Et ils n'ont pas cette chance d'être nés français. Et puis, les conditions dans le camp sont terribles, et je l'entends très très bien, et ça j'imagine. Mais j'imagine aussi que c'est le pays en entier, qui est la région qui a été détruite. Donc il doit y avoir aussi la région qui doit être dans des conditions terribles. C'est pas un problème que d'enfants nés français, c'est un problème beaucoup plus global. Et ça, ce sont des interrogations, ce ne sont pas des remises en cause de quoi que ce soit. Voilà ce que j'avais comme question.
Merci, merci Philippe pour votre question. Marie Dosé, une après l'autre. D'abord, y a-t-il des parents sans enfants ? Des enfants sans parents, pardon. Je vais le refaire. Est-ce qu'on peut imaginer de séparer les enfants des parents ?
Alors, moi je vais vous dire, il y a de ça presque 18 mois, j'avais demandé, parce que les mères me l'avaient demandé, certaines mères me l'avaient demandé, j'avais demandé le rapatriement des enfants sans leur mère. Je le referai plus aujourd'hui, même si elles me le demandaient. Je le referai plus parce que ces enfants ont passé toute leur vie, la moitié de leur vie ou le tiers de leur vie, en terrain de guerre, qu'ils ont vu le pire, qu'ils ont subi le pire, et que leur seul univers, c'est leur mère. Et que cet arrachement-là, je pense, en tout cas moi, je ne veux pas en être responsable. Donc je crois, mais c'est le même problème qui se pose à l'aide sociale à l'enfance sur certains cas, je crois que les enfants doivent être sauvés avec leur mère quand c'est possible, parce qu'il y a des mères qui disent « on veut être judiciaires en France ». Moi, j'ai des mères qui ont écopé de 30 années de réclusion criminelle par défaut, et qui disent « je veux rentrer, je veux purger cette peine, je veux à nouveau être jugée, je veux répondre de mes actes, je veux sauver mes enfants, je veux poursuivre cette histoire, mais surtout pas, en tout cas, surtout pas celle de l'État islamique, mais l'histoire de ma famille en France. Celles-là doivent pouvoir rentrer avec leurs enfants. » Et puis, il y a des enfants qu'il faut protéger de leur mère. Et si ces enfants étaient en France, on les retirerait des bras de leur mère pour les placer à l'aide sociale à l'enfance, parce que leur mère est un danger pour eux. Il y a certaines mères dans les camps qui disent « nous, on ne retournera pas en France et on continue le combat ». Et sachez quand même que ces deux clans de femmes, celles qui veulent rentrer pour sauver leurs enfants et celles qui veulent instrumentaliser leurs enfants et poursuivre le combat, ces deux clans de femmes sont de plus en plus prégnants dans les camps. Et que le clan des femmes dangereuses, sous emprise, qui ne lâche rien, commence à violenter et à menacer l'autre clan. C'est pour ça qu'il y a urgence. C'est pour toutes ces questions-là que ces rapatriements doivent être réalisés dans les meilleurs délais.
Philippe posait une autre question sur comment font nos voisins. J'ai l'impression qu'on est les seuls à se poser cette question, que d'autres, je pense aux Anglais notamment, sont beaucoup plus raides même que nous. Comment font les autres ? Est-ce qu'on le sait ça ou pas ?
Alors, Ce qu'on sait par exemple, c'est qu'il y a certains pays qui gèrent ça sans difficulté aucune. La Russie a rapatrié les enfants et les mères, en tout cas, on est à près de 200 en moins d'un mois. Le Maroc a aussi rapatrié ses ressortissants. Les États-Unis, on connaît leur position sur ce problème. Ensuite, nous sommes le pays européen le plus concerné. Le plus concerné, et donc cette frilosité que l'on peut ressentir chez nos voisins n'a pas le même impact en France. Parce qu'en France, effectivement, les enfants sont plus nombreux, et les femmes également, pouvant être judiciarisées. Mais voilà où nous en sommes.
Un mot, Daphné Bogo, sur ce qu'on disait à l'instant. Quand ils arrivent, ces enfants, alors pour une majorité, est-ce que je dis une bêtise, entre 2 et 5 ans, est-ce que c'est une majorité entre 0 et 6 ans, on va dire. Quel est le type de traumatisme, en fait? Est-ce que ce sont des traumatismes que vous avez déjà vus, donc vous savez faire, ou est-ce que c'est un traumatisme nouveau, au fond, que vous avez à gérer et presque à découvrir?
Alors, les manifestations des traumatismes des enfants, c'est les mêmes que chez tous les enfants qu'on prend en charge à l'aide sociale enfance, mais j'aurais même tendance à dire chez tous les enfants, de manière générale. Ils ont des troubles du sommeil, de l'alimentation, ils sont ou bien très agités, ou bien trop calmes, entre guillemets. Ce qui est particulier avec ces enfants, c'est que c'est les causes de ces traumas. Et comme vous l'avez dit, nous, on a une majorité d'enfants qui ont moins de 6 ans. Pour certains d'entre eux, ils sont tout petits et ils ne parlent pas. Donc,
je vais vous demander quelle langue ils parlaient. Zéro langue, peut-être même parfois.
Alors, pour ceux qui ne sont pas en âge de parler, mais ils comprennent en général le français. Si ceux qui sont en âge de parler le parlent. On a des enfants qui sont trilingues à 5 ans. Ils parlent au moins 2 langues en général. La question de la manifestation, donc il y a l'observation du trauma chez des enfants petits. On fait surtout de l'observation, vu qu'ils ne peuvent pas nous parler. Et on traite ça par ce qui va manifester. Pour ceux qui sont en capacité de parler, j'ai envie de dire que c'est pas si simple, le diagnostic. Les enfants ont une évaluation psychologique dans les 15 jours qui suivent leur retour dans un hôpital. En tout cas, en Seine-Saint-Denis, c'est conventionné avec un seul hôpital. Et le diagnostic est pas si simple à faire entre ce qui relève de ce qu'effectivement ils ont vécu sur place, des conditions matérielles très difficiles, des bombardements, ce qu'ils ont pu voir, et puis ce qui relève du trauma du retour dans un pays qu'ils ne connaissent pas ou dont ils n'ont aucun souvenir. Et puis comme l'a dit monsieur tout à l'heure, la question de la séparation d'avec les parents ou majoritairement les mères, qui est pour l'enfant une situation très compliquée, mais ça, c'est quelque chose qu'on sait gérer, nous, puisque c'est une situation qui se produit régulièrement en protection de l'enfance.
Est-ce que je peux devancer une question qui forcément viendra? Est-ce que quand on a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'on a vécu des choses comme ça, qu'on a du mal à exprimer, effectivement, est-ce qu'un traumatisme peut revenir sur les coups de 14, 15, 16 ans à un autre moment, ce qui rend la difficulté très particulière, en fait?
Alors, c'est comme tous les traumas qui se passent dans la petite enfance. Bon, nous, à ce stade, on n'a pas énormément de recul, puisque c'est depuis 2016 que on a mis en place vraiment un dispositif où on suit ces enfants de manière précise. Vous avez raison. On a des enfants qui ont grandi, qui ont été dans les premiers retours, et on se demande si les dysfonctionnements qu'il y a aujourd'hui, c'est juste parce qu'ils sont en train de commencer leur crise d'adolescence, comme tous les ados qu'on connaît, ou si c'est parce que il y a des choses qui ressortent à ce moment-là. La question de la perte d'un parent ressort souvent à l'adolescence, et pour ces enfants, ça peut être un sujet.
Et c'est un peu le sens de votre question, Patrice. Bonsoir et soyez le bienvenu sur Inter.
Oui, bonsoir. En effet, oui, la question rejoint vos réflexions. Est-ce que des enfants dont les parents ont pu être tués ou emprisonnés, alors tués pour les pères et éventuellement emprisonnés pour les mères, ne risquent-ils pas justement à l'adolescence de nourrir un sentiment de révolte, voire de haine contre les pays, le pays qui a été à l'origine de ces traumatismes.
Merci pour votre question. J'ai oublié votre prénom, pardon, j'ai oublié votre prénom déjà. Patrice, pardon. Marie Dosé pour répondre.
Oui, ce sentiment de rancœur sera prégnant chez les enfants si on les laisse là-bas et si l'on les abandonne. C'est-à-dire que si ces enfants dont les mères réclament aujourd'hui le rapatriement, dont certains avocats réclament le rapatriement, politiquement, on décide de les laisser là-bas, de les laisser grandir là-bas, donc de faire en sorte qu'ils deviennent la proie de groupuscules terroristes, évidemment, ça va être catastrophique. C'est-à-dire que moi, j'entends depuis 3-4 ans cette petite phrase qui fait mal à mon oreille de bombes à retardement.
Ah bah écoutez,
les bombes à retardement.
Claude, en Seine-et-Marne, excusez-moi, si ces femmes reviennent avec leurs enfants, ne vont-elles pas fanatiser leurs enfants? Ce sont des bombes à retardement. Qu'est-ce qui est prévu pour empêcher cela?
Alors, que ce soit clair, ils ne seront des bombes à retardement que si on les laisse là-bas. Parce qu'effectivement, ils seront récupérés par des groupuscules terroristes, ou ce qu'il reste de Daesh, qui leur expliqueront ce que la France a fait d'eux, c'est-à-dire, elle vous a abandonné, et pas de difficulté pour en faire des enfants soldats. Ça, c'est le premier état de fait qui est de toute façon inéluctable. Et ensuite, pour le reste, je comprends pas très bien ce qu'on est en train de nous expliquer. Lorsque l'enfant rentre avec la mère est judiciarisée. Elle va être mise en examen. Très probablement, et même assurément, j'en sais quelque chose, elle va être passée en détention provisoire. Et elle va être condamnée lourdement. Cet enfant sera placé à l'aide sociale à l'enfance, et puis va peut-être petit à petit, eh bien dans le cadre de ce qu'on appelle, nous, des audiences relais, des visites relais, aller en maison d'arrêt pour voir sa mère, avec des éducateurs, essayer de comprendre son histoire. Mais tout ça, ça va se faire très progressivement, ou pas d'ailleurs. En tout état de cause, on ne peut pas considérer que parce qu'ils rentrent, ils deviennent des bombes à retardement. C'est parce qu'ils restent là-bas qu'ils le deviendront irrémédiablement.
Sophie Parmentier.
Non, je voudrais ajouter que ce terme de bombe à retardement, c'est François Molins.
Alors voilà, je voulais savoir qui était le premier, en effet, à l'avoir prononcé ce mot.
Qui en a parlé en janvier 2018, et donc du coup, ça a beaucoup marqué les esprits, évidemment. Il a regretté ses propos ensuite, et c'est un terme qui, évidemment, a marqué l'opinion publique, et il y a cette idée que, en effet, les parents qui sont partis rejoindre le califat auraient pu fanatiser leurs enfants. Mais en effet, ces enfants sont vraiment très petits, et pour l'instant, pour tous ceux qui sont rentrés en France quasiment, les juges des enfants ont la certitude qu'ils n'ont pas été des enfants soldats, qu'ils ne se sont pas entraînés au maniement des armes. Alors, en même temps, c'est très compliqué, et je pense que Daphné Bogo peut en parler assez longuement. En fait, ces enfants sont très mutiques quand ils arrivent. Évidemment, donc il y en a qui ne parlent pas, et il y en a d'autres qui sont mutiques par le traumatisme, et on dit beaucoup qu'ils sont suradaptés, donc c'est très difficile, finalement, de savoir ce qu'ils ont vécu. Pour les parents, c'est compliqué aussi, parce que ces parents, comme le disait Marie Dosé, évidemment, ils savent qu'ils vont avoir un procès, et donc on peut comprendre parfois qu'ils ne disent pas peut-être forcément, pour les femmes, par exemple, elles disent toutes qu'elles sont restées à la maison, qu'elles n'ont rien vu, que leurs enfants n'ont vu aucun
bombardement. C'est ça, j'allais vous poser la question, est-ce que les mères mentent en disant « mais mon enfant n'a pas vu de décapitation, n'a rien vu de tout ça » et au final, le trauma est donc plus important
qu'il n'y paraît. On n'en sait rien. En tout cas, la question est posée, c'est ce qui rend, je pense, les choses d'autant plus difficiles, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des bombes à retardement. En tout cas, si on avait la certitude qu'ils avaient manié les armes, eh bien ces enfants, à partir de 13 ans, ils peuvent être placés en garde à vue, va être mise en examen, poursuivie pour association de malfaiteurs terroristes. Et là, c'est pas du tout le cas pour les enfants qui rentrent avec leurs parents.
On va poursuivre notre discussion grâce à la question de Anne. Bonsoir Anne.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue, on vous écoute Anne.
Oui, bonsoir. Donc là, moi je vous écoute. Alors ma question à la base était, comment peut-on exiger de la société française de prendre la responsabilité, certes, d'enfants, mais dont la situation actuelle n'est rien d'autre que le choix mortifère de leurs parents. Et donc, en fait, là, quand je vous entends depuis le début de l'émission, je n'ai qu'un gros sentiment qui, voilà, il faudrait que nous sentions tous coupables. Bon, moi, je ne me sens pas coupable, mais par contre, j'ai une pensée pour, et là, vous me parlez donc des mères, des enfants, des mères qui vont être condamnées. On oublie quand même, à ce moment-là, les enfants aussi des victimes. Alors, des enfants qui ont été victimes de Daesh directement, tous les orphelins qui sont des enfants des victimes de ces gens-là, et j'espère qu'on a la même énergie aussi pour penser à eux, pour leur permettre de se reconstruire. C'est vrai que on a l'impression que voilà, il y a une dichotomie et que là il faut absolument que nous nous sentions obligés. C'est difficile.
C'est extrêmement difficile. Je ne veux pas vous mettre en situation compliquée, Anne, mais du coup, ça reviendrait à dire qu'il y aurait des bons enfants et des mauvais enfants. C'est ça qui est extrêmement dur, en fait.
Non. C'est pas ça, mais c'est vrai que, si vous voulez, que la société se sente responsable d'un choix fait par des parents. Ils savaient, en allant là-bas, ce qu'ils allaient faire. Ils ont assumé leurs actes, si on peut. Et là, brusquement, il faudrait qu'on oublie tout et qu'on prenne la relève. Mmh. c'est un choix. Enfin bon, de toute façon, déjà partir là-bas avec des petits enfants ou bon, les faire naître dans des endroits où ils les ont fait naître, c'est quand même très égoïste.
Merci Anne, et merci de d'aller aussi dans cette direction-là, parce que on est là pour répondre à ce genre de questions. Il y a un côté où on essaye de culpabiliser nous, Marie Dosé, Société Française, parce que on a pour certains un mouvement de recul face à ces enfants. Qu'est-ce qu'on répond à Anne?
Non, pas nous culpabiliser, nous responsabiliser. Ces enfants ne sont pas responsables du choix mortifère de leurs parents. Ces enfants n'ont pas demandé à être nés là-bas ou à être emmenés là-bas. Et c'est notre responsabilité de faire échapper à ces enfants ce qu'ils n'ont pas décidé, c'est tout. C'est-à-dire que, vous savez, j'entendais cette femme et je me disais, bon, comme vous l'avez dit, il y a deux types d'enfants. Finalement, ils deviennent coupables de ce qu'ont fait leurs parents. Mais vous savez, dans l'appel qu'on a lancé avec Henri Leclerc pour le rapatriement de ses enfants, il y a des victimes des attentats du Bataclan. Il y a des rescapés de l'attentat du Bataclan. Mmh. Il y a des parents qui ont perdu leurs enfants dans les attentats du Bataclan. Parce que je pense qu'il faut prendre de la hauteur. Il faut juste prendre de la hauteur. Un enfant est un enfant. On ne peut rien lui faire payer. Vous savez, en 1945, la France, elle a adopté des enfants nazis. Il y avait ces nurseries en Belgique et en France qui étaient mises en place par les nazis pour parfaire la race aryenne. Eh bien, ces enfants, 50, ont été adoptés par des Français et notamment par des Lorrains. J'en sais quelque chose, je suis Lorraine. On a adopté les enfants de nos ennemis. Pourquoi ? Parce que c'était des enfants et qu'ils n'étaient responsables de rien et qu'on ne peut pas les rendre responsables de quoi que ce soit. Donc la réalité, elle n'est pas du tout sur une question de culpabiliser dans un sens ou dans un autre. La réalité, elle est que c'est notre hauteur d'esprit qui va faire que ces enfants seront sauvés, et en les sauvant, c'est nous, démocratie, que nous sauvons. C'est-à-dire que on va épouser tout sauf justement l'obscurantisme et sauf ce qui finalement a conduit ses parents à faire le pire des choix mortifères qui a été le leur.
Bonsoir Raphaël.
Oui, alors moi je vais revenir sur ce qui a déjà été dit, mais ça me paraissait important. Je pense qu'il y a des disparités au sein des départements de l'aide sociale à l'enfance. Moi je travaille sur un lieu de vie qui est partenaire dans le 78, et on accueille des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Donc j'observe moi qu'il y a des disparités au sein des départements, voire même dans les services même. Et ensuite, je voulais dire que c'était peut-être pas une question de moyens financiers, mais plutôt d'accompagnement des professionnels pour moi. Je pense qu'il va falloir des formations assez spécifiques pour accueillir ces jeunes-là.
Merci beaucoup pour votre question, Raphaël. Daphné Bogo, d'abord deux choses. Un, la fin de la question. Est-ce qu'il y a une formation spéciale qui est prévue pour ce genre de cas désormais ou pas?
Alors nous, on a eu des formations qui ont été organisées avec nos partenaires institutionnels, notamment la protection judiciaire de la jeunesse. Donc nos personnels, c'est-à-dire les éducateurs qui prennent en charge l'accompagnement éducatif des enfants, les assistants familiaux qui accueillent les enfants à leur domicile, et puis d'autres personnes qui sont chargées de l'accompagnement des enfants. On a bénéficié de ces dispositifs de formation. Il y a eu des journées de formation spécifiques sur ces sujets-là. Et puis, on met en place des choses un peu périphériques à la formation, mais ce qu'on appelle, nous, en travail social, de l'analyse des pratiques, qui permet aux professionnels de se retrouver entre eux pour échanger sur des situations avec un tiers.
Ça veut dire que vous vous sentez équipée, vous, Daphné, par exemple, vous vous dites, moi, je peux recevoir ces enfants, je sais faire désormais, je laisse cette pratique, je peux faire, ça ne m'inquiète pas.
Alors, nous, on est le département qui a, je pense, accueilli le plus d'enfants de retour de Syrie, pour une question de compétences territoriales. Aujourd'hui, je pense qu'on sait faire, même si on avance un peu en marchant et que c'est un sujet nouveau pour nous, et que je vous répondrai que les gens seront jamais assez formés et qu'ils auront jamais assez de temps pour échanger. Mais aujourd'hui, on est en capacité de le faire, et du coup, je suis aussi en capacité de venir vous l'expliquer. Il y a un an et demi ou deux ans, c'était pas le cas. Donc, on se professionnalise et avec des gens qui montent en compétence sur ces sujets-là. Je tiens à dire que l'accompagnement des professionnels, la formation, au contraire de ce que disait madame, c'est bien des moyens financiers.
Hein. Ouais. Mais ça veut dire qu'il y a quand même une crainte d'une disparité d'un département à l'autre, malgré tout. C'est ce que j'entends aussi dans la question de Raphaël. Est-ce que, pardon, je vais le formuler comme ça, si demain, tous les enfants qui sont sur place étaient rapatriés, est-ce qu'on a les moyens d'en prendre autant en charge d'un coup? Ou est-ce que finalement, ce compte-gouttes et ce cas par cas, c'est mieux, ça vous arrange en fait? Marie Dosé, je vois que vous faites non avec la tête, je vous ai vu, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la parole dans un instant. Allez-y.
Alors moi je suis un peu embêtée parce qu'il n'y a rien qui m'arrange, si vous voulez. Nous on exécute des placements judiciaires et la prise en charge des enfants, donc ce n'est pas un positionnement sur lequel que je dois avoir. Après ça, effectivement, au moment où les enfants arrivent, on doit leur trouver une place d'accueil. Nous on a fait le choix d'accueillir les enfants, surtout sur les arrivées depuis un an et demi, uniquement en accueil familial, donc dans des familles d'accueil, et pas dans des foyers, parce qu'on estime que c'est plus adapté à leurs besoins en termes de confort, sécurité. Ça veut dire que quand on a un retour qui s'annonce, on doit trouver une place.
Tiens, justement, pardon, je vous interromps, j'ai du coup une question subsidiaire. Est-ce que c'est compliqué de trouver une famille d'accueil pour ces enfants-là ou ni plus ni moins que pour n'importe quel enfant qui a affaire à l'aide sociale à l'enfance?
Nous, en Seine-Saint-Denis, on est un département très saturé en termes de places d'accueil. Au jour d'aujourd'hui, c'est ni plus ni moins difficile de trouver une famille d'accueil.
Vous n'avez pas des familles qui disent ah non moi ces enfants oulala.
Alors les professionnels qui accueillent les enfants, que ce soit les travailleurs sociaux qui vont les prendre en charge ou les assistantes familiales, ils sont volontaires. On leur explique en amont de l'accueil. S'il y a un refus, on cherche une autre famille. On n'impose pas ses enfants à ses professionnels. C'est parfois pas simple à gérer pour des professionnels qui sont parfois un peu désemparés. C'est une problématique qui renvoie chez les professionnels, comme dans la société, je pense, à des peurs complètement irrationnelles. Notre travail à nous, c'est d'accompagner ça et de permettre aux gens de faire un pas de côté, de pas tout voir sous le prisme de la radicalisation, mais sans nier la réalité de ce qui a pu se passer.
Marie Dosé, je sais que vous vouliez réagir et j'aimerais bien votre avis aussi sur cette fameuse peur irrationnelle dont parlait Daphné à l'instant. Pourquoi tant de peur face à ces enfants-là? Effectivement, est-ce que vous le savez? Est-ce que vous l'avez analysé et compris au fond?
Oui, parce qu'ils sont les enfants, ou en tout cas parce qu'on ne parvient pas à les détacher de l'image de leurs parents, parce qu'on ne les considère pas comme des enfants à part entière, mais comme le fruit de leurs parents et du choix de leurs parents. Et c'est ça qui est profondément injuste et profondément irrationnel. Et je revenais juste sur quelque chose, sur le cas par cas. Vous avez évoqué le cas par cas. C'est Emmanuel Macron qui évoque le cas par cas depuis 18 mois, ou plutôt, il l'a évoqué deux fois en 18 mois, puisqu'il a pris la parole à deux reprises seulement sur les enfants en 18 mois. Mais ce cas par cas, il est inaudible, il est discriminatoire, il est impossible à supporter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France rapatrie 5 orphelins parce qu'ils n'ont pas de père et pas de mère, mais dit aux enfants français qui ont la malchance d'avoir une mère encore en vie, vous allez périr dans les camps de la tuberculose et du choléra. C'est ça le cas par cas là actuellement. Donc ça n'est pas possible. Il n'y a pas de cas par cas pour les enfants. Il faut tous les rapatrier. C'est une question d'urgence.
Sophie Parmentier, avant de retourner au standard très vite.
Oui, d'un mot, je voulais juste dire que ce qui fait peur, je pense aussi, c'est que ces enfants ont été utilisés par la propagande de Daesh. Et vous vous souvenez forcément des vidéos qu'on a vues avec les lionceaux du califat et avec quelques enfants français qu'on a vus parfois une arme à la main. Et c'est ça qui fait peur aussi. Mais encore une fois, en fait, parmi tous les enfants qui sont rentrés en France à ce jour, et c'est pas moi qui le dis, en fait, ce sont les autorités judiciaires, eh bien, il n'y a pas d'enfants qui ont été entraînés au Mali des armes, sauf des enfants, alors des adolescents plus âgés qui avaient plutôt 16, 17 ans, donc ils étaient mineurs en fait, ils sont partis dans ce qu'on appelait les filières dès le début, ils sont partis avec un grand frère, et donc là il y en a quelques-uns qui sont rentrés, il y en a 8 à vrai dire qui sont rentrés, ils ont été tous judiciarisés aussi, ils ont eu un procès, ils ont été condamnés, ils risquent des peines de prison eux aussi, assez lourdes, moitié moins que les adultes, mais ils risquent aussi des peines de prison, et certains ont été condamnés.
Stéphane, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, voilà, donc j'entends beaucoup qu'on parle de l'aide sociale à l'enfance, donc on est bien dans le champ de la protection de l'enfance. Moi, je travaille dans un ITEP, qui est un institut pour les enfants qui ont des troubles du comportement, et on parlait des séquelles physiques, et moi, je veux voir un peu aussi les séquelles psychologiques que des enfants comme ça, qui doivent revenir de toute façon en France, vont subir, et je voulais savoir peu quels moyens, voilà, parce que on a déjà du mal avec des enfants tout venant, entre guillemets, qui ont des troubles du comportement, et ce genre d'enfants, est-ce que les familles d'accueil ont une formation pour traiter un peu cette pathologie? On est dans le handicap, donc je voulais savoir un petit peu ce qui allait être mis en place par rapport à ça, comment ils allaient être pris en charge dans les institutions de professionnels et au sein des familles d'accueil ou des assistants Merci. Les assistants qui allaient les accueillir, les accueillir chez eux.
Merci Stéphane pour votre question. Daphné Bogo, vous avez déjà en partie répondu en fait à l'interrogation de Stéphane, mais c'est intéressant de voir que c'est les mêmes interrogations qui reviennent. Moi, ce que j'entends dans la question, c'est ces troubles-là particuliers. Et au fond, on n'en sait rien. Qu'est-ce qui différencie un enfant traumatisé en Syrie d'un enfant traumatisé par, je sais pas moi,
la maltraitance
ou etc. Est-ce qu'on sait qu'il peut y avoir une différence?
Non, mais pas plus qu'on sait pour un enfant qui est pris en charge en protection de l'enfance, comment il vivra les traumas qu'il a vécu dans sa famille, en France, dans ce que vous disiez tout à l'heure, dans 10 ou 15 ans. Ce que je voulais dire, c'est que les enfants qu'on a accueillis, nous, depuis fin 2016, globalement, ils étaient en assez bonne santé physique, avec assez peu de problématiques, enfin des choses qui se résolvent très facilement dans le cadre d'un bilan et d'un suivi. Pour répondre plus précisément sur la question du suivi psychologique, il y a un bilan qui est fait dans les 15 jours et il y a un suivi qui dure tout le temps de l'évaluation sociale, qui est fait pour nous par le même hôpital que l'hôpital qui fait le diagnostic. Et les enfants sont accompagnés, qu'ils soient petits, moyens ou plus grands. Ils voient la psychologue de l'hôpital qui, avec les moyens qu'elle a, fait l'accompagnement et la progression des enfants.
Une dernière question. Je vais pas vous prendre à l'antenne, Loris, excusez-moi, mais je vais prendre ma question parce que sinon j'ai peur qu'on soit un peu trop long. C'est pour vous, Marie Dosé. Au-delà des enfants, pouvons-nous accepter le retour de femmes qui ne regrettent pas leurs actes?
Ce que je disais tout à l'heure, je crois qu'il y a des enfants qu'il faut sauver de leur mère. Et les femmes qui ne regrettent pas leurs actes risquent d'être beaucoup plus dangereuses en restant là-bas qu'en étant judiciarisées ici. Parce que pour côtoyer régulièrement la justice antiterroriste française, je peux vous assurer qu'elle est tout sauf laxiste. Et qu'à partir de là, ces enfants doivent aussi être sauvés de leur mère.
Et merci beaucoup, merci vraiment, merci à tous pour vos nombreuses questions. Merci pour ce débat passionnant et portez-vous bien.